je m'appelle Marielle et grâce à mon travail, je donne des cours de français à des adultes étrangers. J'ai le plaisir de rencontrer des personnes venant de pays différents, vivant depuis peu d'années en France. Et parce qu'on entend beaucoup parler d'elles dans les médias en des termes génériques, mais qu'on les entend peu parler d'elles de façon directe et individuelle, j'ai eu envie de leur donner la parole pour qu'elles nous racontent leur parcours et leur vie ici, qu'elles nous parlent de leur pays d'origine et de la France. Et je leur ai proposé aussi de nous faire écouter une musique de là-bas et une musique d'ici qu'elles aiment particulièrement.
Bonjour, je m'appelle Anna. Je viens d'Ukraine, de la ville de Dnipro. J'ai 34 ans. Je suis mariée et j'ai deux enfants. Je suis prof d'anglais depuis déjà 15 ans. Et je suis arrivée en France en mars 2022 à cause de la guerre en Ukraine. Et pour l'instant, j'habite ici, à Pernay.
Oui.
Champagne.
D'accord, donc tu nous as dit un peu la raison de ton départ, oui, évidemment, la guerre en Ukraine. Et donc, comment est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours depuis le départ?
Oui, en Ukraine, j'ai fait les études, j'ai travaillé comme prof d'anglais, j'ai rencontré mon mari et j'ai eu mon premier enfant. Toute ma vie, mes proches, toute ma vie était là-bas. Mais après le début de la guerre, nos priorités ont changé et c'était la sécurité qui est devenue le plus important, la sécurité pour notre enfant. Et à cause de ça, nous avons décidé de quitter l'Ukraine. Ce n'était pas facile, pas du tout, de dire au revoir à toute ma vie. Mais nous avons décidé de faire ça et parti. C'était dur parce que c'était difficile d'imaginer d'avenir.
La France, c'était un choix ou?
Parce qu'avant, nous avons visité France et nous avons eu toujours la belle image de ce pays. Et nous avons eu quelques proches dans le part de mon mari. Et c'était un petit peu plus facile de comprendre qu'il y a quelqu'un là qui peut-être peut aider et expliquer comment faire toutes les choses, aller où. C'était en fait l'oncle de mon mari qui habite à Strasbourg.
D'accord.
Et qui dit salut à nous, quand nous avons...
Donc quand vous êtes arrivée en France, vous êtes arrivée à Strasbourg?
Oui, d'accord. C'était Strasbourg, juste quelques jours à Strasbourg, pour aller aux préfectures et obtenir ce premier document nécessaire. Et,
c'est quoi le premier document?
C'est APS form pour les Ukrainiens. En fait, nous n'avons pas reçu exactement le APS form. C'était juste la demande pour l'avoir. Et après, nous avons fait ça. Nous avons déménagé quelques fois. C'était quelques hôtels, aussi à Strasbourg, mais juste pour quelques jours ou une semaine. Et après, c'était Chalon. C'était beaucoup de stress, en fait, parce que j'ai toujours imaginé que nous pouvons rester à Strasbourg, mais non, ce n'était pas possible.
Pourquoi c'était pas possible?
Parce que si tu veux demander ce document, cet APS form, et avoir quelques logements, tu dois faire toutes les choses que préfecture et CCS te dit, tu ne peux pas choisir ou juste dire oh je voudrais rester
à Strasbourg ou à
Paris
ville,
par exemple. Tu dois aller
là où on te dit d'aller.
Oui, et c'est un chemin précis. parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements sociaux à Strasbourg déjà. Il y a beaucoup d'immigrants là-bas. Et notre opportunité, nous attendons exactement en Champagne. C'était Châlons et après c'était Pernes.
Et dans les étapes pour s'installer, pour être régularisé, comment ça s'est passé? Ça a été long, ça...
Maintenant, quand je regarde à cette situation, quand je repense...
Oui, quand tu regardes en
toutes
arrière...
Toutes les étapes, oui. Ça me semble plus facile.
Mm-hmm.
Pas trop dur. Mais dans ces moments, c'était dur. Parce que je pense que c'était à cause de l'état émotionnel et beaucoup de grands changements.
Bien sûr.
J'ai compris que toutes les démarches nécessaires et tous les changements étaient durs, mais aussi ça donnait la nouvelle routine.
Et, une nouvelle routine?
Oui. Et c'était nécessaire aussi. C'était plus facile, en fait, émotionnel d'être occupé.
Oui.
Commencer d'étudier la langue et faire toutes les démarches, s'inscrire à ma fille à l'école.
Et d'avoir différentes activités, ça permettait de pas être...
Oui. C'était dur, mais c'était une distraction aussi.
D'accord. Et la langue, comment ça s'est passé, la langue, quand vous êtes arrivé, vous parliez en anglais?
Oui, je parlais anglais, mais ce n'était pas assez. Pas du tout. C'est vrai.
Parce que les Français parlent pas bien anglais, Anna?
Non, c'est bien, mais pas beaucoup du monde parle anglais, mais c'est normal. En France, c'est assez de parler français.
C'est pas réputé pour être bon en langue.
Mais pour moi, oui, c'était difficile de découvrir ça. Mais j'ai décidé que je peux essayer et apprendre la langue française. J'ai pas eu beaucoup d'expérience, juste en fait quand j'ai fait les études, c'était en anglais et un peu de français, mais juste la base et c'est pas beaucoup d'expérience. Pas du tout. Mais avec quelques cours de français toujours disponibles à Épernay. Je dis que Épernay, la ville de langue française, il y a beaucoup de cours, beaucoup de bénévoles qui sont toujours prêts d'aider si tu veux. C'est important. Et j'ai commencé d'avoir cette cours avec Anne-Marie à Mava, c'est maison des arts et de la vie associative de Ville-Épernay. Et c'était difficile, mais après quelques mois, je pense, j'ai senti que c'est un peu mieux. C'est devenu un peu mieux et mieux. Mieux et mieux. Et il y a un an, je pense, quand j'ai décidé de... d'avoir un cours avec prof Marielle pour obtenir le niveau B1. Et j'ai réussi.
Bien réussi. D'accord, donc tu dirais que c'était quand même aussi la langue qui était le plus difficile au départ, en plus des autres démarches, évidemment.
Pendant quelques mois, oui. Mais je pense que c'est une histoire habituel pour tous les langues, quand tu veux d'apprendre une nouvelle langue. Quelques mois, tu es perdu, totalement. Mais après, c'est mieux et si tu es prête à parler avec les erreurs, mais toujours parle un peu. C'est difficile, mais ça peut devenir un peu plus possible.
Oui. Et maintenant, tu es régularisée avec ton mari? Vous avez un titre de... Vous avez des papiers qui permettent de...
Nous avons toujours notre APS form.
Qui vous permet de...
Oui, c'est assez. Pour l'instant, c'est assez. Et, mais cette forme est... ce n'est pas un papier plus stable.
D'accord, oui.
Et nous voudrons demander quelque un papier chose. Autre, ouais. Oui, quelque chose autre pour avoir quelque chose plus permanent.
Mm-hmm.
Parce qu'à PS4, mais toujours temporaire, parce que nous espérons la guerre est temporaire.
Ouais.
Et ce document est temporaire aussi.
D'accord, oui. C'est un document exprès pour les Ukrainiens, parce que en attendant que peut-être la guerre se termine.
Si la guerre termine,
d'accord.
Ce document termine
d'accord.
aussi.
D'accord.
Mais pour l'instant, nous devons refaire ce document d'accord. chaque 6 mois.
D'accord.
Et c'est toujours possible de demander au FPRA
mm-hmm.
d'avoir un autre document parce que notre région est vraiment dangereuse et OFPRA, les officiers de OFPRA bien connaissent ça et c'est possible d'avoir cette rendez-vous OFPRA, expliquer la situation et si tu peux bien expliquer mm-hmm. pourquoi c'est vraiment dangereuse et c'est vrai. Ça doit être assez pour, normalement, pour obtenir un document papier plus stable.
Я би краще тоді опинився у полоні зі снів, де я ніби условно лечу вниз, і не бачу всіх тій глибині, де тікаю від всіх, і залишаюся там само завжди. Що зробити, скажи, що мені треба заради того, щоб відпустити думки всі про тебе. Чому мене, чому мене? Коли ми заснем, неважливо буде ніч або день. Вже давно і ти в футболці, а я вже не в твоїх обіймах. Прийди в самий дальній рівень всіх сновидінь. Переконайся, як тут біля глибень, сиро і темно, та обережно вкради все про тебе. Чому мене?
Anna, toi, est-ce que tu peux raconter un peu comment s'est passée tes journées depuis que tu vis ici, tes activités, les loisirs, s'il y a eu des loisirs?
Oui, bien sûr, je peux essayer. Maintenant, je peux dire que j'adore Épernay. C'est une petite ville, mais trop sympa. Et j'adore cette atmosphère spéciale de la région d'Épernay, généralement. Mais honnêtement, quand j'ai juste arrivé en France, c'était difficile de remarquer tout le beauté et estimer la qualité de la vie à cause d'état émotionnel. Et je peux comprendre maintenant que toutes les choses que j'ai faites C'était juste pour ma fille, pour être sûre qu'elle a la vie normale. Mm-hmm. Parce que c'était juste moi, ma mère et ma fille, notre petit chien, qui sont arrivés en France, pas mon mari, parce que c'est toujours un problème pour les hommes de passer la frontière. Mm-hmm. Mais c'était bonne chance et un petit peu après, c'était je pense presque un an, c'était possible pour mon mari.
Un an après, oui. Il vous a rejoint en France
Oui, c'était aussi une histoire spécifique pour notre famille parce que en fait, la mère de mon mari était malade et à cause de ça, c'était possible pour mon mari d'arriver pour... donner soutien
à sa mère.
Sa mère, oui, pour rester avec nous et sa mère là, en France. Et cette période était dure, mais après, je peux dire que cette nouvelle vie a commencé, finalement, pour nous. Et maintenant, je peux dire que je peux profiter ouais. La ville et nous pouvons avoir quelques voyages maintenant et découvrir la région parce que avant je n'ai pas le moral pour faire ça. Mais quand je sentis plus un petit peu plus stable, j'ai compris que je peux commencer de faire plus de choses et dire merci en France et j'ai pensé qu'est-ce que je peux faire. Et c'était bénévolat. J'ai fait du bénévolat à Mava et commencé ma cour d'anglais pour les adultes et les enfants. Mm-hmm. Et j'adore ces moments et cette expérience parce que je pense que j'ai senti la vie encore.
Et puis tu pouvais faire ton métier.
Oui. Et je peux dire que vraiment, vraiment j'adore mon métier parce que c'est un travail qui donne beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Et c'est toujours un échange des émotions et des pensées, des idées. Et j'ai rencontré beaucoup de gens vraiment formidables. Et c'était un moment spécial pour moi.
Continue aujourd'hui de donner des cours
Non, parce que j'ai eu mon deuxième bébé et j'ai arrêté. Mais j'espère qu'un jour je peux continuer. Et, en fait, je pense beaucoup à ça. Peut-être un jour je peux commencer la petite entreprise, micro-entreprise, et donner le cours en ligne pour les gens français et ukrainiens aussi, pourquoi pas. Je pense que je voudrais essayer de télétravailler exactement parce que j'ai deux enfants et ça me donne l'opportunité de passer plus de temps avec ma famille. Mm-hmm. Mais c'est le petit projet.
Un grand projet. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites en particulier?
Honnêtement, mes objectifs restent le même. C'est la stabilité pour ma famille, la bien-vie pour mes enfants. Mm-hmm. Et réaliser nos petits et peut-être grands projets, mais déjà là, en France.
Et si la guerre en Ukraine s'arrête, est-ce que vous auriez envie de...
C'est une bonne question, mais c'est vraiment compliqué de penser à ça, parce que si j'essaie d'imaginer que la guerre, oui, Je voudrais imaginer ça et j'espère un jour. Ce sera comme ça, mais après la guerre, ce sera aussi une période très, très dure pour l'Ukraine, pour tous les gens, pour gagner cette vie normale, stable. Je pense que c'est plus simple, en fait, pour moi de penser et d'imaginer notre vie en France maintenant, parce que la situation est vraiment difficile.
De vivre ici, quelle image tu avais de la France et des Français?
La première fois quand je suis en France, c'était pendant mon lune de miel avec mon mari. C'était en Alsace. Et,
c'était il y a combien de temps?
C'était l'année 2017. Un temps, et nous étions enchantés par le beauté et l'atmosphère d'Alsace. Mais la vie émigrée est différente, un peu différente, et maintenant, nous devons découvrir plus de choses en profondeur. Mais je pense que j'ai toujours cette image de France. J'adore ce pays, les systèmes, la sécurité que ce pays a donné à ma famille. Et je pense que j'ai déjà commencé d'avoir cette sensation de la maison, là. J'ai attendu d'avoir cette sensation encore. C'était très important pour moi. Et maintenant, quand je retourne à Épernay après le petit voyage, par exemple, je suis contente chaque fois. C'est ma petite maison. Mais je voudrais dire encore que Après tous les changements et tous les petites difficultés, bien sûr, avec les papiers, la langue, j'ai toujours cette admiration pour France.
Et les Français, que avant que tu arrives ici, tu te faisais quelle impression, quel avis sur les Français? Tu avais un avis, tu te disais peut-être les Français, ils sont gentils, ils sont un peu râleurs.
Toujours gentils pour moi. En fait, nous avons visité quelques régions différentes. L'atmosphère de cette région est différente aussi, et les gens, bien sûr, c'est comme dans tous les pays, je pense, et en Ukraine, c'est comme ça. Peut-être c'est bonne chance, mais je ne pense pas. Tous les gens sont gentils pour moi et polis, et nous avons rencontré beaucoup du monde trop gentil, qui a donné beaucoup de soutien à notre pays, à notre famille, dans la période qui était un peu dure, peut-être. Mmh. Et en fait, je suis très reconnaissante pour tous ces moments, à le club de prévention, par exemple, et tous les assistants sociaux, et à nos amis français aussi. C'était vraiment beaucoup pour nous, ce soutien. J'apprécie, vraiment.
Quand tu es arrivée, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris vraiment énormément?
Ah, peut-être oui. C'est la quantité de courriers en papier, parce qu'en Ukraine...
Oui. Dans les boîtes aux lettres
Nous avons quelques boîtes à lettres, mais nous n'utilisons pas cette boîte. mais je pense que maintenant, je peux comprendre un peu mieux pourquoi. C'est parce que toutes les notifications et tous les problèmes, si tu dois faire quelque chose et avoir contrôle, c'est toi qui dois faire ça. C'est ton responsabilité. Et l'État ne doit pas, en Ukraine, ne prendre soin de envoyer quelques notifications à toi ou petit report de quelques démarches.
Tu parles de papiers administratifs?
Oui.
Pour les démarches.
Exactement. Okay. Tous les papiers administratifs.
En France, il y en a beaucoup.
Oui.
D'accord.
J'étais choquée. Parce que chaque fois, j'ai reçu un courrier, j'ai pensé, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je dois faire quelque chose, oh, mon Dieu.
Je demandais beaucoup de papiers, ouais.
Oui.
Beaucoup de démarches administratives.
Mais aussi, par exemple, après quelques rendez-vous chez le docteur, je peux recevoir quelque chose aussi. Et quand j'ai reçu quelques courriers d'hôpital, je pensais, oh mon Dieu, c'est quoi? Pourquoi? c'était juste le petit report.
D'accord.
De rendez-vous. Ce n'est pas une habitude en Ukraine, pas du tout. Tu dois contrôler toutes les choses et réserver toutes les choses. Tu es seule.
D'accord.
Avec toutes tes démarches.
D'accord.
Aussi maintenant, je pense que c'est déjà quelque chose que je... C'est déjà quelque chose de normal pour moi. C'est les horaires d'ouverture et de fermeture de quelques magasins et restaurants.
Mm-hmm.
Mais je peux toujours parfois vérifier. Avant, je dois quitter ma maison. J'ai toujours vérifié un peu si...
Parce que les horaires ne sont pas du tout les mêmes en Ukraine,
Pas du tout, mais... C'est différent aussi parce qu'en Ukraine, j'ai habité dans la ville plus grande, avec beaucoup de magasins. Et ces magasins, les restaurants aussi, ils ont ouvert presque tous les journées. Et samedi, dimanche, c'est pas grave. Parfois, ennui aussi. Ça a pris juste quelques temps de... pensé à ces moments avant que je partie. Et quelques expériences pas très, très agréables, mais maintenant c'est mieux et je pense en fait ces horaires, ça m'aidait aussi d'organiser ma journée. Et j'ai un plan chaque jour programme. Parce que oui, un programme. Comme ça.
D'accord. Et qu'est-ce que tu as aimé le plus et est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as aimé le moins? Est-ce que tu saurais dire en arrivant en France ou à Épernay d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose tu te dis oh ça j'aime vraiment pas?
J'adore vraiment notre région et j'aime voyager aussi et ça me donne beaucoup d'émotions positives et beaucoup d'énergie positive et France est belle. Nous avons visité quelques régions comme j'ai déjà dit, c'était Alsace, c'était la première région en fait qui nous avons découvert un petit peu plus. Et après c'était Champagne, c'était Normandie, c'était Paris bien sûr, et un peu de sud. Toutes ces régions sont différentes, mais avec une atmosphère spéciale et j'adore cette expérience.
Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées?
Peut-être oui, mais ça n'arrive pas comme ça.
Tu
ce n'était pas beaucoup, je pense. Quand j'essaie d'estimer de qualité de la vie dans toutes les sphères, en Ukraine, nous avons le système aussi dans toutes les sphères de la vie, mais ce système, c'est plus que, malheureusement, pour l'instant, c'est plus qu'une image de le système. Mais ce système ne marche pas effectivement, toujours. En France, c'est vraiment, c'est mieux. Et j'espère qu'en Ukraine, ça sera similaire. Parce que nous avons ce potentiel, je pense. Mais peut-être avec plus de règles, ça arrive un jour. Mais je pense que le système... c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ici. Bien sûr, j'ai eu quelques problèmes quand j'ai fait la démarche et j'ai attendu un peu pour avoir rendez-vous ou quelques papiers. Mais enfin, ça toujours marche.
D'accord. Est-ce que tu as découvert des choses qui n'existent pas dans ton pays d'origine, en France?
Pas d'objets, je pense, mais peut-être quelques produits, quelques repas spécifiques, comme déjà dit. Quelques produits. J'adore les produits à base de lait en France, les fromages, mais il y a toujours quelques produits, quelques poissons, par exemple, qui je peux trouver en France, mais il est mariné un petit peu différent, pas comme...
D'accord, dans la manière de cuisiner.
Oui, mais je peux toujours faire ça chez moi, c'est possible, et je peux toujours trouver le petit magasin arménien, ou géorgien, ou ukrainien à Paris. C'est possible si je veux manger quelque chose trop spécifique.
D'accord.
Et je pense toujours que ce n'est pas une catastrophe. C'est bon.
comme je disais, il y a les Français, des fois, ont certaines habitudes un peu typiques, comme faire la bise.
Ah oui.
Ou manger beaucoup de pain, ou arriver un peu en retard. Ou... Est-ce que toi, tu as pris certaines de ces habitudes depuis que tu vis en France? Est-ce que tu fais la bise à des gens
Oui, la bise, c'est pas grave pour moi.
Ouais.
Juste un moment, en Ukraine, normalement, nous faisons juste une bise.
D'accord, juste une.
Oui. Et en France, c'est deux. Parfois, c'est,
ouais,
parfois
c'est plus.
Trois, parfois quatre.
Ça dépend.
Ça dépend des régions, oui. Ouais.
Oui, mais pour moi, c'est bon. Pourquoi pas, les deux, c'est...
Les Ukrainiens, ils ont des petites habitudes spécifiques à eux, tu dirais, ou pas spécialement?
Je pense qu'en France, les gens ont plus de quelques habitudes spécifiques. Par exemple, manger à heure fixée.
Alors fixe.
Pardon. En fait, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir dans mon régime. Je pense que c'est mieux parce que en Ukraine, normalement, nous mangeons quand nous préférons.
D'accord. Il n'y a pas d'heure pas spéciale.
Oui. Fréquemment, nous mangeons plus que nécessaire. C'est pas trop organisé parce que, je pense, c'est parce que nous mangeons beaucoup. En France, les gens mangent beaucoup aussi. Et il y a beaucoup de plats spéciaux et très bons et faits maison. En Ukraine, c'est comme ça aussi, mais nous cuisinons exactement beaucoup chez nous. Et tu cuisines, tu manges, et c'est, nous cuisinons chaque jour.
Mais vous mangez pas toute la journée?
C'est
il y a des plages horaires.
C'est une tradition, je pense, pour Ukrainiens, pas acheter, pas aller en restauration beaucoup. Ouais, en France, d'accord. C'est trop populaire, c'est normal, c'est pas quelque événement d'aller au restaurant, par exemple. En Ukraine, c'est plus comme ça, parce que nous cuisinons plus à la maison. Mm-hmm. Le repas simple, mais toujours fait maison. Et à cause de ça, je pense, nous n'avons pas quelques horaires fixes pour manger. C'est comme ça.
Et est-ce que tu saurais dire un peu ce qui ressemble et ce qui est très différent entre la France et l'Ukraine? Alors évidemment, il y a beaucoup de domaines, mais est-ce qu'il y a un domaine en particulier où tu veux dire que c'est vraiment pareil et d'autres, c'est vraiment très, très différent?
Je pense qu'il y a toujours les choses qui sont pareilles. C'est peut-être la priorité de la vie, c'est la famille, le travail. Tout le monde en Ukraine pense à ça, je pense. Mm-hmm. Et en France aussi, je peux voir ça. Dans le niveau de culture et politique, c'est pas pareil. Je pense qu'en France, on peut toujours trouver plus de liberté pour transmettre tes pensées et tes idées. Et égalité aussi. Nous avons égalité. Tout le monde, les femmes et les hommes, peut travailler, faire les études. Dans le niveau de l'égalité, oui, cette égalité existe. Mm-hmm. Mais je pense que toujours tu peux rencontrer cette... Ah, je connais ce terme en anglais, c'est glass ceiling, le plafond de verre. Le plafond en verre.
Oui, le plafond de verre, c'est une expression.
Le plafond de verre.
Oui.
Pour les femmes.
Oui.
Parfois, peut-être, oui, ça existe aux États-Unis, en Ukraine, et peut-être en France aussi, je ne suis pas sûre, pour les femmes. Exactement. Quand les femmes pensent qu'elles peuvent avoir plus et avoir une promotion, elle ne peut pas avoir quelques problèmes pour faire ça, mais en fait, ce plafond tout existe. Pas toujours, mais c'est possible.
Et au niveau des médias, par exemple?
Je peux voir les hommes et les femmes et les enfants aux médias. Nous avons beaucoup de... reportages, de téléprogrammes avec tout le monde. Je ne pense pas que c'est un problème au niveau de médias.
Oui. Mais dans la liberté bon. Les journalistes.
Je pense que avec le journalisme, c'est en particulier maintenant avec la guerre, c'est difficile d'estimer. Je pense que non, maintenant c'est dur. Je sais que beaucoup de journalistes juste disparaissent. Mais globalement, pas dans le contexte de guerre, de la guerre, c'est pas critique, je pense.
Mmh. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose dans ta langue d'origine? Ce que tu veux.
Je peux. C'est une phrase courte que j'adore. В серці дає любов завжди весна. Je vais essayer de
traduire. Oui.
dans ton cœur, il y a l'amour, c'est toujours le printemps pour toi, la vie.
C'est joli, ça vient d'un poète?
Ah non, c'est juste une phrase philosophique qui peut peut-être t'aider.
Parfois. Peut aider tout le monde.
Oui.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Anna.
Merci à vous pour cette expérience.
Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à cette interview. Merci beaucoup à Radio Primitive, Émilie, Gustine de m'aider à concrétiser ce projet. Merci beaucoup à la médiathèque Simone Veil à Épernay et sa directrice Marianne Fuss de nous accueillir dans ses locaux pour réaliser les enregistrements. Enfin, merci à vous, auditeurs, auditrices, qui avez eu la curiosité d'écouter ce podcast et rendez-vous le mois prochain.